Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau magazine de la moto sur le 106,6 de Campus Lille ou www.campuslille.com. Au menu de cette émission aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec nos motards engagés. On commence avec Christophe. Salut Christophe.
Bonjour à tous et à toutes. Mois de mai.
Alors voilà, je rappelle aux auditeurs hein, que tu es, que tu nous donnes un aperçu du sommaire du Moto Magazine. Et oui, aujourd'hui, ce sera celui du mois de mai.
Alors effectivement, il vient d'arriver dans vos boîtes aux lettres, hein, puisqu'on est mi-avril et c'est toujours avec une quinzaine de jours d'avance qu'on reçoit le mag. Après, vous pouvez l'acheter dans les kiosques proches de chez vous. Alors j'ai relevé donc sur la page de couverture un gros dossier sur les trails routiers et pas que routiers. D'ailleurs, hein, mais déjà les grosses pointures, hein, un ticket entre 20 et plus de 30 000 euros avec l'Africa Twin, la KTM 1390 Super Adventure SEVO et la BMW 1300 GS. Alors, c'est du gros, c'est du lourd, un long dossier. Alors, je l'ai retenu sur le plan des automatismes et je l'évoquerai tout à l'heure dans une séquence qu'on évoquera tout de suite après. Alors, autre sujet, la rubrique Consomotard. Vous retrouverez donc dans Motomag le méga test des applications de navigation avec des outsiders et finalement des petites startups qui tirent leur épingle du jeu, et c'est français. Présentation aussi de deux motos, la BM qui était assez attendue, F450 GS Trophy. Alors, est-ce que le sigle GS est porté par la marque avec ce modèle 450? Bah, vous verrez, Axel, titre en plein dans le mille, vous découvrirez son essai complet. Ainsi que la Yamaha Ténéré 700 World Raid, et comme son nom l'indique, l'appel du lointain. Donc à découvrir, est-ce qu'elle en vaut le prix par rapport au modèle standard. Dans les rubriques que j'ai retenues, alors vous savez que depuis quelques mois j'essaie de vous faire un pas de côté, et donc j'ai relevé un certain nombre de photos qui illustrent le magazine et qui nous parlent à nous motards, et donc je vous ferai une petite revue de presse d'illustration donc des motos dans cette première séquence. En deuxième séquence, un long dossier également, et là j'ai mis Jean-Yves à contribution pour parler du boîtier éthanol en cette période. Hein, de coûts énergétiques, oui, majorés. Est-ce que le boîtier éthanol 85, je vous rappelle, donc une essence dans laquelle on incorpore l'éthanol.
C'est plutôt l'inverse. L'éthanol dans lequel on incorpore un peu de SP.
Voilà, effectivement, pour 85% d'éthanol. Et donc, pour se faire aider et conseiller à la réflexion sur ce sujet, j'ai sollicité également le témoignage de Cédric de Motocab, compagnie de moto taxi parisien, que nous avions déjà eu il y a 12 ans, probablement. Et donc, bah, il nous dira avec le recul un petit peu son témoignage d'utilisateur. Dans une séquence suivante, j'ai relevé également dans les pages du Motomag toutes les actions des Français dans le monde de la moto qui illustrent en fait notre pays au niveau de l'Europe et au niveau mondial. Alors que ça soit dans les actions qui sont menées auprès de la Commission européenne, mais aussi dans les marques et les salons, en particulier les événements à venir dont je vous reparlerai. Une rubrique tourisme que je développerai donc après le voyage de Frédéric et de Philippe, les journalistes de Motomag au Québec et plus particulièrement en Gaspésie. Et pour terminer, une séquence bon plan où j'ai relevé toutes les bonnes opportunités pour vous si vous voulez changer de moto, acheter du matériel. À vous de vous faire votre marché avec toutes les idées que je vous donnerai relevées dans Motomagazine de mai.
Eh bien, merci Christophe. L'autre motard engagé, eh bien, c'est Jean-Yves, porte-parole de la Fédération française des motards en colère 59. Oui. Bonjour Jean-Yves.
Bah, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors là, pour une fois, je vais délaisser un peu ma casquette FFMC. Quoique ça, la FFMC fait du lobbying pour la reconnaissance de l'utilisation des boîtiers E85 sur les motos, chose qui est permise sur les voitures, mais bizarrement pas sur les motos. On se demande pourquoi, parce que franchement, surtout ces temps-ci où certains s'amusent à payer 2 francs, 2,10 euros.
Non, 2 francs,
litre.
Non, c'est
2,10 euros. c'est du vol complètement.
C'est vrai que je me dis, à chaque fois que je fais le plein à la station, je me dis si ce serait bien quand même que je puisse mettre de l'E85.
Alors, je vais vous parler d'un copain qui a installé ça, un boîtier E85, sur sa moto et sur sa voiture. Et donc, il y a maintenant 4-5 ans d'expérience avec. Franchement, on a la banane quand on est dans un groupe de copains qui font le plein à 40 euros et vous le faites à 20 euros. Ah oui. Vous avez la banane, vous êtes content de payer.
Ça fait un resto. Hein.
Voilà.
Voilà, très bien.
Et donc, je vais vous donner des aperçus aussi du fonctionnement de ces boîtiers E85 parce qu'il y a énormément de fake news qui circulent là-dessus.
Voilà, vous écoutez Campus Lille sur le 106.6 ou www.campuslille.com à la technique. On salue notre pilote d'émission, Laurent, hein, et on se retrouve dans quelques instants, juste après notre premier morceau de musique. À tout de suite. Christophe, on commence avec, pour ce sommaire hein, du MAC de mai, on commence avec une marque qui s'est organisée et qui organise son opération marketing, et c'est Royal Enfield.
Voilà, tout à fait. Alors vous vous souvenez, on avait fêté les 40 ans de la radio et on avait une batterie de Royal Enfield qui était à l'essai. Et bien Royal Enfield nous a copié. J'exagère, mais c'est... voilà. Il se trouve que le marathon de Rome a eu lieu récemment, le 22 mars, à Rome évidemment, et que Royal Enfield a mobilisé 30 machines, des Guerilla et des Himalayan 450, pour faire la revue et promouvoir, sponsoriser cette épreuve sportive. Donc, alors, les photos qui vous sont présentées, malheureusement, il manquait le soleil, hein, comme quoi à Rome, il ne fait pas toujours beau, hein, mais c'est comme ça. Et donc, photos de motos, alors, à sortir, la moto électrique, hein, dont on parle beaucoup depuis 2 ans, mais qu'on aura, je pense, en fin d'année dans les concessions Royal Enfield. Et puis, les machines habituelles, dont je parlais tout à l'heure, Guerilla et Himalayan. Et ils en ont profité également pour sortir des modèles historiques. Alors, je rappelle que la marque a fêté ses 125 ans. Enfin, sa première moto, c'était en fait un vélo... électrique, motorisé, thermique, pardon, motorisé. Mais là, quadricycle 1901, modèle de 1921 également, et une Météor 700 de 53, et une Trial Bullitt de 350 de 1957. Donc vous découvrirez cela en page 6 de Motomag. Page 34, je rappelle que vous pouvez toujours envoyer vos photos, vos coups de cœur, un lieu, une émotion, une moto. Et les lecteurs de Motomag ne s'y trompent pas. Et j'ai relevé donc ce mois-ci une photo du Jobart Team. Et oui, le café, il existe. Il est en Suisse. Enfin, à la frontière plutôt, sur la route du lac de Côme en Italie. Et donc, Mathieu nous fait partager le Jobart Team. Également, une proposition de balade dans les Alpes du Sud par Pierre. Alors, Pierre, il a fait ça donc, après la saison d'été, au guidon de sa Bagger R18 BMW. C'est pas la meilleure moto pour faire ce genre de choses, il le reconnaît. Mais par contre, tous les lieux emblématiques où il est passé, Barcelonnette, évidemment, pour ceux qui connaissent, l'école de Foniera, la statue de Pantani, et photo à l'appui, il vous donne son roadbook pour vous permettre éventuellement d'aller découvrir ce coin des Alpes sauvages préservé. Je rappelle d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de voir sur la Nationale 7, il y a une station-service de la marque Ozo qui a été complètement restaurée. Si vous passez par là, je vous assure que ça vaut le coup d'œil. Et justement, fin avril, là, il y a un rassemblement d'anciennes. C'est des associations d'anciennes, motos et voitures, qui organisent régulièrement des événements pour se retrouver là. Donc, un petit clin d'œil au Jobart Team, la station-service Ozo sur la Nationale 7. Et puis, pour terminer, une illustration... Je ne sais pas ceux qui ont connu Jackie Vimont. Il y a 40 ans, ce jeune de 25 ans avait obtenu le titre mondial en motocross 250. Et puis sa vie a basculé, c'est le cas de le dire, lors de la fête justement de son titre.
Oui, c'est con. Hein.
C'est con.
C'est con ce qui lui est arrivé.
On peut le dire. On nous raconte donc effectivement la fiesta s'est mal terminée, puisqu'en fait il devait descendre sur scène avec sa moto suspendue 9 mètres au-dessus de la scène.
Oui.
Et la moto s'est décrochée.
Elle était mal arrimée.
Elle était mal arrimée. Oui. Et donc il a plongé,
dans
les chaises avec évidemment les conséquences que vous imaginez. Colonne vertébrale, bassin, ceinture abdominale, notamment, sont lourdement touchées. Et donc, Jackie, malgré le handicap, parce qu'il a quand même été immobilisé plusieurs années, a repris du service. Et donc, pendant toute cette phase de reconstruction, il a écrit. Il a écrit, alors que ce n'était pas vraiment son truc. Et il se trouve que parmi eux, il y a un supporter qui lui a proposé de mettre en musique ses écrits. Et de là est sorti un disque. Et alors, l'anecdote, elle est que Pierre Orluc, donc le rédacteur en chef qui nous raconte cet événement, nous raconte qu'il a retrouvé ce disque dans un restaurant lillois. La petite cour, alors un petit clin d'œil donc à l'établissement, et c'est d'ailleurs bien le seul disque qui est sorti. Alors on est en 1986, hein, donc c'est un vinyle,
oui, c'est un vinyle,
un
oui.
33 tours,
ouais.
Double face,
oui.
Hein, avec évidemment toutes les mises en musique des textes que Jackie.
Alors, attends, là, Pierre-Henri nous dit qu'il a retrouvé le menu dans la pochette. Il y avait peut-être pas le disque.
Ah oui,
voilà.
Alors, effectivement.
Les menus sont présentés à l'intérieur de vieilles pochettes de disques.
Voilà, et donc vous avez les photos des quatre faces, puisqu'il y avait évidemment deux faces de disques, donc les quatre faces de la pochette de disques, avec Jackie Vimon, évidemment, ses supporters, la fête, et bien sûr les textes des chansons qui sont décrites dans l'article. Donc un beau clin d'œil. Alors le passé de Jackie, finalement ça s'est terminé en 1990. Il a arrêté sa carrière après avoir repris donc du service et s'être classé quand même cinquième en 1988 en GP500. Et puis il est désormais entraîneur dans le team Honda HRC en MXGP. Donc un parcours et son autobiographie donc sera bientôt disponible dans la boutique Motomag. Un titre à quel prix ?
Oui, et comment il s'appelait ce disque ? Le titre du disque ?
Alors, moi, rose.
C'est rose.
Rose, parce qu'effectivement, c'était l'emblématique couleur de Jackie en course. Voilà. Alors, dans les...
Donc, si vous faites les bourses de vinyle...
Peut-être qu'il va prendre de la cote.
Si vous retrouvez, si vous voyez un disque qui s'intitule Rose, eh ben voilà, c'est le disque de Jackie Vimon.
Voilà, et donc 10 chansons, Ma mère, Mon père, Champion du monde, Rose, L'accident, Un ami pour moi. Enfin bon, voilà, vous découvrirez ça. Alors peut-être aller faire un tour à la petite cour.
À la petite cour,
un oui. Petit peu de pub, et puis vous retrouverez donc les titres. Après, sur YouTube, peut-être qu'on retrouve, je ne sais pas. À découvrir.
Bon, Christophe, est-ce que... Moi, je pense qu'on pourrait peut-être rouler à l'éthanol sur nos motos. Hein.
Bah oui,
parce que... 85, ça coûte quand même moins cher. Hein.
Bah oui, quand tu fais le plein, en gros, c'est un bon 15 euros à chaque plein.
À chaque
on
fois,
est
pas
économisé. Oui. Hein, ouais. Donc, effectivement. Donc, un article aujourd'hui dans Motomag concernant l'essence trop chère. Les moteurs ne doivent plus être exclus du super éthanol E85. Alors, c'est un sujet qu'on avait déjà abordé il y a...
quelques années.
12 ans, je pense. Et donc, on avait fait appel à Cédric de Motocab. Eh bien, on a retrouvé Cédric. Bonjour, Cédric.
Je suis là. Bonjour à tous.
Ah bah ça va, t'es pas malade.
Merci d'avoir répondu à l'appel. Voilà.
Avec plaisir.
Effectivement, on t'avait reçu à cette époque parce que les motos qui roulaient à l'éthanol, il n'y en avait pas beaucoup. Et on les trouvait chez les mototaxis. Et on les trouve toujours chez vous, d'ailleurs.
Bah oui, tout à fait. On continue depuis 15 ans et on s'est jamais arrêté.
Voilà. Alors, l'article est consacré donc par Motomag au fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas équité entre les automobilistes et les motocyclistes, puisque depuis 2017, les boîtiers sont homologués pour les voitures, mais pour les motos, macache, rien. Donc, vous, c'est un peu différent. Tu me disais que les machines qui sont équipées, ce sont essentiellement les Goldwyn.
Ouais, tout à fait. Nous, on n'a que des Goldwyn qui sont équipés avec les boîtiers bioéthanol. Ouais, tout à fait.
Voilà. Tu peux rappeler très rapidement Motocab, c'est qui, c'est quoi?
Alors, Motocab, c'est une société de mototaxi, donc sur l'île de France. On existe depuis une vingtaine d'années et on fait tourner une centaine de chauffeurs au quotidien pour transporter les clients.
D'accord. Essentiellement des Goldwyn, pardon.
C'est exclusivement des Goldwyn. Hein. Oui. C'est la moto la plus confortable. Donc, pour les clients, c'est parfaitement adapté. Et quasiment tout notre parc de véhicules possède un boîtier bioéthanol pour rouler. Ouais.
D'accord. Alors, ce qui est évoqué dans l'article passe évidemment par l'homologation. En ce qui concerne donc les machines qui sont équipées de votre parc, tu me disais qu'elles étaient constructeurs.
Elles sont constructeurs, donc nous on fait poser un boîtier éthanol en plus, mais la carte grise reste comme elle est, il n'y a pas de modification. C'est vraiment un véhicule qui reste constructeur.
D'accord. Constructeur, normalement, si elle roule à l'éthanol, la carte grise doit être modifiée.
Quand le boîtier est homologué, mais ce n'est pas le cas, donc on ne peut pas faire modifier la carte grise.
Ah d'accord, ok.
Voilà, c'est toute la question qui est effectivement abordée dans l'article et pour lequel j'imagine que les juristes de l'FFMC et les représentations des motocyclistes s'attachent justement à faire évoluer les choses. Et donc, il se trouve que tu as entendu la voix de Jean-Yves. Jean-Yves, fin technicien qui travaille, évidemment, on en discutait... avant l'émission, qui connaît effectivement des pratiquants de l'éthanol. Et donc, au niveau de l'installation, ça te présente... Je m'adresse à Jean-Yves. Hein.
Moi, j'ai fait un tuto sur le site Rocket, l'installation d'un boîtier éthanol e-flex fuel. Et ça m'a pris une heure et demie en prenant des photos, en notant et en préparant mon article tuto sur le site Rocket. Donc franchement, c'est à la portée de tout motard de base, sauf que maintenant, les motards, ils ont deux pieds gauche au bout des bras.
Oui. Alors bon, toi tu es professionnel, Cédric, donc effectivement, tu me disais que tu faisais appel à un prestataire qui réalise ça. D'ailleurs, vos motos continuent une seconde vie.
Ah ben oui, elles ont, après nous, on les revend et en général, quand on revend les véhicules, c'est rare qu'on me demande d'enlever les boîtiers. Hein. On les vend avec le boîtier. Pour donner quand même une petite idée, hein, parce que j'ai fait un petit calcul pour que vous voyez quand même un petit peu la quantité de kilomètres qu'on a parcouru avec. On pose des boîtiers depuis 15 ans et si on considère que c'est une centaine de motos qui tournent, sachant qu'une moto fait à peu près 60 000 km par an, ça veut dire qu'elles ont parcouru 90 millions de kilomètres avec les boîtiers bioéthanol. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a vraiment aucun problème.
D'accord. Est-ce que sur la durée, c'est une technologie qui a évolué? C'est-à-dire que les moteurs aujourd'hui sont de plus en plus dépollués. Là après, on va peut-être rentrer dans trop de techniques, mais au niveau de la cartographie moteur, est-ce qu'il y a des choses qui ont fait évoluer le matériel?
Alors nous, on se rend compte que c'est un réglage un petit peu plus fin, qui fait qu'évidemment, on sait qu'il y a une surconsommation hein, quand on met un boîtier bioéthanol qui est largement compensé par le fait qu'on paye l'essence surtout en ce moment plus de deux fois moins cher. Oui. Ce qui a évolué, c'est qu'on arrive à avoir quand même une consommation qui est quand même maintenant beaucoup moins importante que les premiers boîtiers qui étaient posés sur les véhicules.
D'accord. Alors, un des reproches qu'on faisait en fait à ce carburant, c'est la condensation qui peut arriver dans le réservoir. Mais vous roulez tellement finalement, un chauffeur, il fait le plein tous les combien ?
Alors, il fait à minima un plein par jour, voire deux pleins.
Ah oui.
Ouais. Donc, oui, le problème se pose pas pour vous. Il n'y a pas le temps de condenser dans le réservoir.
Absolument. c'est clairement. Ouais. Tout à fait. Parce que c'est pour des petits rouleurs, entre guillemets, bah, le jeu n'en vaut pas la chandelle.
Si.
Si. J'ai une voix là qui s'élève.
Enfin, petit si, rouleur, 15 000 bornes par an, si. Oui. Si.
On parle d'un kit qui va coûter, allez, si je donne une fourchette, entre 500 et 1000 euros, peut-être un petit peu plus avec d'autres professionnels. Aujourd'hui, avec le prix de l'essence qui clairement dépasse 2 euros le litre et l'éthanol qui est en dessous d'un euro le litre, oui. Si, même pour un petit rouleur, ça vaut le coup. Hein. Bah, le boîtier oui. Va être vite rentabilisé.
Au prix actuel, oui. C'est... Alors, il ouais. faudrait que l'essence, enfin, faudrait non. que le carburant reste à ce prix-là, quoi.
Même au prix, quand c'était à 1,60, 1,70, c'était rentable. Parce qu'à l'époque, c'était 70 centimes. C'était toujours Exactement. Deux fois moins.
C'est deux fois moins cher. Il y a au moins un minima 1 euro d'écart au litre de différence. Alors, donc, ça va vite.
Oui, il y a une analyse. Tu donnais tout à l'heure les kilométrages. Mais clairement, l'économie d'usage, finalement, ça paye presque la moto sur la durée d'utilisation. Tu t'es pas livré à ce genre de calcul ?
Non, je ne me suis pas livré à ça. Il y a aussi un aspect, mais ça c'est plus pour les professionnels qui nous concernent, c'est qu'il y a une récupération en plus de la TVA sur le bioéthanol, qui n'est pas le cas forcément sur le sans-plomb. Donc c'est aussi un intérêt aussi
à prendre en compte, tout à fait.
À prendre en compte, ouais.
Tu me disais en préparant l'émission, tu as des chauffeurs indépendants. Dans le parc de motos qui est le vôtre, ça représente combien ? Tous les chauffeurs ne sont pas salariés de Motocab ?
Alors, de manière générale dans le métier, tous les chauffeurs sont indépendants. Il n'y a pas de chauffeur salarié dans le taxi-moto,
okay.
que ce soit motocab ou en dehors de motocab. Et je dirais que dans le métier, trois quarts des taxi-motos ont équipé leur véhicule d'un boîtier bioéthanol.
D'accord. Et pour situer sur l'Île-de-France, motocab, c'est un parmi combien de prestataires de
C'est 100 motos parmi 500 motos, pour donner une petite idée.
D'accord, donc vous pesez lourd, si on peut parler comme ça, dans le parc.
On est un acteur principal du taxi-moto à Paris, effectivement.
C'est vrai que tu n'as pas peur que nos amis du gouvernement aient la bonne idée, par exemple, d'augmenter le prix du E85, parce que éventuellement, comme il leur faut, comme un budget n'est pas très équilibré en ce moment, le budget de la France, ce serait une bonne idée pour faire rentrer un peu d'argent.
Alors ça dépasse un petit peu le cadre de notre société.
Mais bon.
Voilà, ils peuvent toujours. Après, l'intérêt à l'origine, il y a aussi, parce que là on parle beaucoup d'argent, c'est quand même un carburant qui émet quand même
la pollution aussi.
Beaucoup moins de pollution, oui. 90% de particules fines en moins, je crois que c'est 50% de gaz à effet de serre en moins. Oui. À un moment...
Il a été fait pour ça ce carburant, hein.
Si on veut, il a été fait pour ça. Donc, si on veut décarboner et qu'on pousse les gens à avoir des boîtiers bioéthanol, on peut pas derrière retaxer. Ou alors, ou alors on marche sur la tête.
Des agriculteurs aussi.
Ben c'est ça. Ça fait la filière française est quand même importante et contribue aussi à.
Oui, parce qu'il est à noter que c'est le cas en France, mais si vous allez en Angleterre ou en Allemagne, vous en trouvez pas de l'E85.
C'est une spécificité française, effectivement. Donc, il ne faudrait pas augmenter la fiscalité et détruire ce qui a été fait. Ça serait un petit peu dommage.
Et à la position qui est la tienne en tant qu'acteur, quand même, et utilisateur, c'est pour ça qu'on a fait appel à ton témoignage. Tu n'es pas sollicité, justement, par les pouvoirs publics pour émettre un avis. Non, dans tes petites fiches, tu n'as pas d'informations à nous communiquer.
Non, je n'ai pas d'informations à communiquer. En revanche, tout comme pour votre radio, disponible. Voilà, si le gouvernement ou des acteurs veulent prendre contact avec nous, parce qu'on a effectivement un fort recul, et il faudrait effectivement beaucoup plus généraliser, et je pense que l'homologation des boîtiers permettrait vraiment d'augmenter cette bascule sur l'éthanol.
Alors voilà, le 85, il y en a en France, mais effectivement, Jean-Livre vient de le dire, il n'y en a pas en Angleterre. Et donc, si tu vas avec ta moto en Angleterre, qui est équipée donc E85, hein, d'un boîtier bioéthanol, est-ce que tu peux remettre de l'essence normale du 95 ou 98?
Alors, très bonne question. C'est un boîtier flex fuel, donc qui prend, sans regarder, de l'E85, du sans-plomb 95 E10, qui déjà a de l'éthanol, du 95 tout court ou du sans-plomb 98. Vous mettez ce que vous voulez.
D'accord.
Et c'est le boîtier qui dose au niveau du taux d'octane, savoir s'il y a de l'éthanol, pas d'éthanol.
Effectivement, ça pose aucun problème. Effectivement, tu as un capteur qui mesure le taux d'éthanol dans le carburant.
Tout à fait.
D'accord. Donc, on parle bien du même boîtier. Donc.
C'est le même boîtier. Et puis, ça arrive quand même que nos chauffeurs... y a beaucoup de stations, mais... vous n'allez pas tomber en panne d'essence parce qu'il n'y a pas du bioéthanol. Donc, ça arrive effectivement de temps en temps de mettre un petit peu de sans-plomb, ce qui ne pose aucun problème.
Très bien. Okay. Eh bien, écoute, Cédric, un grand merci en tout cas de ta participation parce que c'était intéressant après une quinzaine d'années de notre premier échange de faire un peu le point. Et
c'est
en tout cas, les machines, tu me disais que donc, le parc deuxième main, c'est des machines qui ont 200 000 km et qui retrouvent donc, dans les mains de nouveaux utilisateurs.
Voilà, et qui continuent d'utiliser le boîtier.
Ouais, super. Bon, je ne vais pas te dire à dans 15 ans. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion, les boîtiers seront effectivement homologués, d'en reparler.
Parce qu'on a, on a vieilli aussi, hein, Cédric, il y a depuis 12 ans.
Ouais. On sera peut-être à l'EHPAD.
Oui, c'est surtout ça. Ouais.
Allez, bonne route et puis à bientôt.
À vous, dimanche.
Merci à vous, à très bientôt.
Au revoir. We'll be right back. Bon, Christophe, on revient sur le sommaire du Motomag du mois de mai. Alors, comment les Français se positionnent dans le monde de la moto au niveau de l'Europe?
Alors, bah,
et au niveau aussi mondial. Oui. Alors ça, c'est dans l'édito avec Pierre.
Voilà, l'idée m'en a été donnée. J'ai cherché, en fait, dans les pages du magazine de mai, tous les articles qui mettaient en avant la performance, finalement, des équipes françaises. Alors, au sens large, vous verrez, dans le monde de la moto. Alors, tout commence, effectivement, dans l'édito de Pierre Orluc, puisqu'en fait, on découvre... Alors, on savait qu'au niveau européen, il y avait une action qui était menée par la Fédération européenne, donc la FEMA, la FIM, NMC. Alors, ce sont toutes des abréviations. Vous retrouverez donc dans à la fin de l'édito les appellations. Ces fédérations donc regroupent 77 organisations de motards, dont la FFMC, évidemment. Et donc, alors on appelle ça du lobbying, ça c'est le terme consacré, mais on parle aussi de plaidoyer, pour rester français. Et donc là, c'est de faire en sorte que les usagers de la moto ne soient pas oubliés des politiques. On l'a vu avec le Covid, le boom du vélo. On a vu naître des pistes cyclables Covid. Et puis aujourd'hui, toutes les villes passent effectivement à la place du vélo dans la ville. Mais la place du motard dans tout ça, c'est l'objet justement de ce plaidoyer des fédérations. Et donc, ils ont sorti un Position Papers 2026. Alors, papers, quand on parle papers, souvent, c'est pas toujours dans le bon sens du terme, hein, n'est-ce pas? Et donc, vous retrouverez sur le site de la FFMC donc, la traduction française des propositions qui sont faites justement pour améliorer la prise en compte des motos, des pratiquants de la moto dans les pays européens. Et donc, quelques chiffres sont rappelés, hein, en termes d'emplois induits, 400 000. En termes de chiffre d'affaires, 20 milliards d'euros, donc un poids économique considérable qui montre comment les Français, aux côtés des associations représentatives européennes, se positionnent.
Et plus de 40 millions aussi de circuler de deux roues, hein, sur les routes des 27 pays de l'UE. Hein.
Absolument. Ouais. Et donc en France, justement, on évoquait tout à l'heure le sujet de l'E85, c'est plus de 4 millions de deux roues circulant en France. Alors, un autre sujet concernant le positionnement français, c'est une marque historique, hein, Peugeot, mais dont on sait les affres malheureusement pendant toute la période économique, la cession aux Indiens, et puis fabrication en Chine. Et voilà, et puis ça passe par l'Allemagne. Et donc il y a un fonds de pension effectivement allemand qui a repris. Et il se trouve que c'est un Français aujourd'hui qui est à la manœuvre et qui veut redonner à Peugeot ses lettres de noblesse. Ex-Mutares, voilà. Donc c'était Laurent Lilti qui était donc dans ce fonds de pension et qui aujourd'hui est à la manœuvre et qui veut redonner donc à Peugeot Motorcycle ses lettres de noblesse avec de nouveaux modèles. Alors ils se sont dévoilés au Salon de Lyon, dont je parlerai tout de suite après, avec un cyclomoteur, le désormais illustre 103, qui passe à l'électrique. Bon, on attend de le voir sur la route.
Et qui passe en rose.
Il est rose ? Ah oui, il serait rose, décidément.
Oui, c'est un 103 rose.
C'est la couleur à la mode. Donc voilà un positionnement français. Alors, en parlant de positionnement français, un autre événement, évidemment, ça fait trois fois qu'on en parle depuis trois mois, c'est le Salon de Lyon. Alors, je ne vais pas vous reparler du Salon de Lyon, mais je vais vous parler de la préparation du Salon 2027. Puisqu'en fait, le Salon de Lyon a pulvérisé les records. D'abord, il a fait son meilleur score d'entrée par rapport à tous les événements. C'était la 33e édition. Et donc, il reste donc le salon d'exposition le plus fréquenté de tous les salons d'Euroexpo Lyon, hein, toutes disciplines confondues. Et donc, pour continuer sur cette lancée-là, une nouvelle halle va être construite. Elle sera utilisée et ouverte donc l'année prochaine. Vous pouvez déjà noter les dates, du 11 au 14 février. Alors, c'est plus tôt d'ailleurs que ça n'a été cette année, hein, la 34e édition. Les chiffres sont assez impressionnants. 3000 professionnels accueillis les deux jours d'ouverture, donc le mercredi et le jeudi. Quasiment 70 000 visiteurs le samedi. Alors, toi, tu y étais. Il faut une semaine maintenant pour visiter.
Bah écoute, si ça continue, oui, il va falloir une semaine. Oui. Parce que déjà, je trouve que 4 jours.
Le salon ne dure pas une semaine. Hein,
non, mais.
Peut-être qu'ils vont le passer à. Alors, 4 jours, effectivement. Fréquentation donc en hausse de 8,5%. Donc, des nombres de motos considérables. Alors, il y a une vente aux enchères, évidemment. Il y a surtout. C'est un parc d'attractions hein, de la moto. Et qui attire autant les familles, les anciens, les jeunes, les cadres, enfin tout le monde, quoi.
Donc, alors, une semaine presque. Parce que là, Christophe, il parle aussi d'un nouveau. Un hall hein, supplémentaire, hein, qui est en construction.
Oui, c'est ce que j'évoquais.
De 7000 m² en plus.
L'année dernière, les 155 000 m² d'Eurexpo avaient été utilisés, donc la totalité des halles disponibles. Oui. Et l'année prochaine, ça sera effectivement encore un peu plus. Un autre événement qui va se dérouler donc dans une semaine, je vous rappelle que l'émission est enregistrée, mais à la date où vous l'écoutez, effectivement, le week-end prochain, le 8, 9 et 10 mai, l'incroyable rendez-vous du Grand Prix de France 2026. Donc, Cocorico, en 2023, l'épreuve a été sacrée meilleure organisation mondiale en MotoGP. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Le spectacle sera sur la piste, donc avec des courses, des sessions MotoGP bien sûr, mais Moto2 et Moto3, ainsi que le Red Bull Rocky Cup. Donc vous retrouverez tout ça en page 20. Mais c'est surtout l'événement qui sera fait, avec la possibilité évidemment d'utiliser les autoroutes gratuitement. Hein, vous pourrez vous rendre donc au circuit Bugatti du Mans sans sortir la carte bleue. Ça, c'est une bonne chose. Et là aussi, les chiffres affolent les compteurs. Hein. En 2025, c'était 318 000 spectateurs pendant le week-end, 120 000 le dimanche. Alors, il y a un truc qui m'a amusé. Là, j'ai pas eu de réponse. Il y a 37% de femmes, 33% de femmes, pardon, et 37% d'hommes. Donc, je ne sais pas les pourcents qui restent.
C'est quoi,
c'est un robot Tesla.
Voilà. Donc.
Et peut-être qu'il va pleuvoir. Hein. Alors, je ne sais pas, la météo sera peut-être pas. Elle sera humide.
Ah, oui, mais ça,
et peut-être qu'on aura encore une fois notre pilote Johann Zarco sur la pilote marche du podium.
Oui, alors c'était.
Qui sait ?
C'était effectivement un des succès de la manifestation.
De l'année dernière.
À cette époque-là. C'était en 2023. Hein. L'an passé.
L'an passé, t'as raison.
Voilà. Oui, tout à fait.
Ça fait 71 ans qu'on n'avait pas vu un Français gagner au Mans.
On va continuer.
Un pilote français.
On va continuer sur
Donc
voilà, des rendez-vous pour des événements. Il faut rappeler que 140 médias sont accrédités, que 20 pays sont représentés, 14 millions d'euros pour l'organisation du Grand Prix, donc c'est pas rien, et 40 millions d'euros de retombées économiques pour la Sarthe. Bon, excusez du peu. On peut donner quelques tarifs. Hein. Donc le prix d'entrée, c'est 101 euros tout compris. Pour le dimanche seul, c'est pas donné.
C'est pas donné.
Vous payez pas le péage, mais c'est d'entrée. Mais vous paierez que 122 euros pour les trois jours complets, tout compris sur place, et c'est gratuit.
Ah bah là, à mon avis, ça s'est fait exprès, hein.
Oui.
Hein, parce que la différence entre le dimanche et puis les autres jours, il y a 22 euros. Non, il y a 21 euros de différence.
Voilà. Alors, je rappelle pour conclure que vous pourrez disposer d'un baladeur. Alors, dépêchez-vous, il n'y en a que 80 000 disponibles. Hein. Le baladeur vous permettra de suivre les commentaires live de deux journalistes de Motomag, Thomas Bojard et l'auteur de Céline, Pierre Orluc. Voilà.
Et je précise que c'est gratuit pour les moins de 16 ans.
Voilà, accompagné d'un adulte.
Ouais,
il ne faut pas l'oublier. Et on retrouvera sur place Sarah Lesito, qu'on connaît bien maintenant, puisqu'elle était au salon de Douai, et de Reims. Et également.
Voilà,
donc des rendez-vous. Et puis la France, pour clore le sujet, elle se distingue bien dans le monde de la moto, avec des événements majeurs. Keep your head on the ball.
Dans le sommaire du Motomag, on part au Canada.
Eh oui, alors une région que je connais bien, puisque la Gaspésie, j'ai eu l'occasion de la parcourir en 2014. Et donc, je savais que Philippe Guillaume, journaliste à Motomag, et Frédéric, qui s'occupe particulièrement des vidéos, étaient partis là-bas au mois de septembre. Et donc, dans le magazine de mai, vous avez donc une rétrospective, photo à l'appui, de leur périple le long du Saint-Laurent. Alors vous, si vous ne connaissez pas, Montréal, donc, qui est dans les terres, au bord du Saint-Laurent, vous remontez le Saint-Laurent sur 1200 km et vous arrivez sur l'embouchure donc, de l'océan Atlantique. Et là, vous êtes vous longez en fait la Gaspésie. Alors la Gaspésie, c'est une région de nature. Hein. Il y a 95% du territoire qui est constitué de forêts. Vous ne rencontrez pas une habitation avant d'avoir fait 100 km. J'exagère, mais c'est un peu ça. Et donc Philippe, qui nous narre son périple, et surtout la découverte par Fred du Canam. Donc ils ont eu plaisir de pouvoir disposer pendant les trois semaines qu'ils ont passé là-bas d'un Spider, Canam Spider. Donc c'est un petit peu l'équivalent de la Goldwyn, si vous voulez. Alors c'est quand même pas un 6 cylindres, c'est un 3 cylindres en l'occurrence, boîte auto évidemment.
Et transmission par courroie.
Merci.
C'est un trois roues, il faut préciser pour les gens qui ne connaissent pas, les auditeurs qui ne connaissent pas le Canam.
Un tricycle.
Oui.
Deux roues avant.
Alors là, il faut préciser que c'est deux roues avant,
voilà.
Et une roue arrière.
Alors chez nous...
Parce que quelquefois, c'est l'inverse.
Ouais. Oui, oui. L'équilibre est moindre.
Il est moindre, oui.
Y a eu des voitures dont on connaît un peu la fin pour elles. Et donc, c'est vrai que chez le motard, c'est un peu décrié, c'est considéré de manière un peu hautaine, mépris et condescendance, c'est une bagnole, ça a les inconvénients cumulés de l'auto et de la moto.
Ça, bon. C'est large quand même.
Ah, oui. Ah bah oui.
Alors, on ne peut pas faire de remontée de fil avec, ça fait supérieur à un mètre de large.
Oui. Ah bah oui, c'est vrai, tu nous avais expliqué ça à l'émission précédente.
Mais connaissant les routes là-bas et leur façon de conduire, parce que vous pouvez avoir des highways, des autoroutes où il n'y a pas grand monde, je peux vous dire que le 100 km/h, il est respecté. C'est quand même assez fabuleux. Et donc en fait, on profite du paysage en cruisant sur au guidon de ces machines. Et donc là, Philippe et Fred ont remonté la Gaspésie. Alors, ils nous narrent la façon dont ils sont allés se perdre sur le long de ces routes avec le pot de miel dans les sacoches au cas où ils feraient une mauvaise rencontre d'ours. Parce que je ne sais plus, il y a 700 000 ours, je crois, 70 000 individus qui sont recensés rien qu'au Québec. Bon, ceci dit, ils n'en ont pas rencontré un. Donc
c'est en hiver. C'est en hiver
non, c'est au mois de septembre.
Non, parce que l'ours il hiberne en hiver.
Ah voilà, oui.
Donc mais on sait pas. Oui.
Et donc ils ont monté les différentes villes au gré donc des villages qui portent des noms de saints. hein, puisqu'on est quand même dans des régions où les villes se sont déployées autour des paroisses. Quand je suis passé là-bas, il y a un événement majeur qui avait... c'était le centenaire, en fait, du naufrage d'un paquebot. Juste dans le Saint-Laurent, où il y avait eu pas loin de 1000 personnes. Alors, on parle beaucoup du Titanic, mais ce bateau-là, donc, c'est arrivé des années plus tard. Et il se trouve que dans l'explication que nous fait Philippe, il y a un certain William Clark qui a été donc naufragé des deux naufrages. Et qui s'en est sorti.
Du Titanic et du machin.
Ouais.
Et du bateau qui a coulé dans le salon.
Voilà, tout à fait.
Et donc, il y a de la chance.
Absolument.
Il savait bien nager.
Alors, je ne sais pas, mais il a beaucoup de chance.
Oui, oui. Donc, c'était le 28 mai 1914, ouais. L'Empress of Ireland. Et donc, en 14 minutes, malheureusement, 465 survécurent sur les 1477 passagers. Ça fait quand même pas loin de 1000 personnes. Il y avait un trésor de lingots d'argent qui visiblement a été retrouvé.
Ah oui.
L'intérêt, c'est que effectivement, ils étaient à moins 45 mètres, alors qu'au plus profond, le Saint-Laurent est à moins 300 mètres. Donc vous avez un certain nombre d'adresses qui vous sont données. La découverte de paysages, les camions. Alors là-bas, les camions, c'est autre chose. Hein. c'est à la mesure du pays. Hein, à la mesure des autoroutes. D'ailleurs, vous avez une illustration avec le Spider à côté de ces gros trucks. Et puis, la caractéristique. Alors, connaissez-vous le plat principal au Canada ?
La poutine.
La poutine ?
Bah oui.
Qu'est-ce que c'est, la poutine ?
C'est pas un mec en Russie, là ?
Non. Ça s'écrit différemment.
Non, je ne connais pas.
Voilà. Donc c'est le plat.
C'est roboratif, c'est des frites avec du fromage fondu.
Oh là là !
Une viande en sauce.
Ça ressemble un peu à notre...
Ça vous cale, hein.
Notre Welsh, hein,
si
les Flandres.
Oui,
à peu près. Non,
on pourrait un peu l'assimiler à ça.
Ouais. Aux trois brasseurs, ils en font. Si vous voulez goûter ce que c'est. Voilà.
Alors, je me souviens qu'il y avait.
Alors, si vous nous écoutez dans le sud, hein, par internet, alors trois brasseurs, c'est un resto, hein, qui ouais. est. D'ailleurs, peut-être qu'il y en a dans le sud, peut-être aussi.
Mais il y avait.
C'est une chaîne de resto.
Rue Léon Gambetta à Lille, il y a un restaurant de poutine qui avait ouvert. Mais malheureusement, je pense qu'il a fermé. Alors, je ne sais pas pour quelle raison. C'est vrai que affublé d'un nom pareil, c'est quand même pas...
C'est pas vendeur.
C'est pas vendeur en ce moment, non.
C'est pas vendeur.
Donc, entre parenthèses, apparemment, dans l'article, il ne parle pas des maringouins qui sont une plaie abominable à l'automne au Canada.
Alors, explique-nous de quoi s'agit-il.
Les maringouins, ce sont des petits moustiques, mais vraiment minuscules, qui s'infiltrent partout, qui piquent énormément, et on devient fou.
Ah d'accord, parce que ça sonnait un peu comme les belugas, mais non, pas la même chose, parce que là, ce n'est pas des petits moustiques,
c'est plus gros.
C'est des énormes bestiaux que vous pouvez effectivement découvrir dans le Saint-Laurent. Alors évidemment, les baleines, hein, et donc les observations se font à partir de Tadoussac. Alors Tadoussac, c'est de l'autre côté du Saint-Laurent. Hein. Là, on est sur la côte est. Là, Tadoussac, je vous parle de la côte ouest. Mais c'est de là, effectivement, que se font les départs de bateaux et les meilleures observations de ces bestiaux colossaux que vous trouverez dans le Saint-Laurent. Donc voilà, une découverte. Et puis surtout, les impressions de découverte aussi du Caname, parce que c'est quand même une revue de moto. Hein, donc, ces particularités. Je veux parler de vidéos. Vous avez actuellement disponible sur la chaîne YouTube de Mode de Mag une présentation de Bombardier, donc le fabricant, puisque ça faisait l'objet aussi du voyage. Et donc, par contre, la vidéo sur la Gaspésie n'est pas encore en ligne. Elle est au montage, hein, donc vous pourrez la retrouver. Alors j'avoue que j'aimerais bien essayer quand même. Ce type de...
Le problème, c'est un peu comme le sidecar, c'est-à-dire qu'il faut quand même largement pousser sur le guidon, et donc il faut avoir des bonnes épaules et des bons bras.
D'accord.
Alors par contre, le sidecar, on arrive toujours à régler le pincement et le carrossage. Là, le Canam, on ne peut rien faire. C'est vendu tel quel. Et donc, il faut vraiment des bons biscottos.
Oui. Alors là, avec le Spider, on est vraiment sur la version la mieux équipée en bagagerie, justement, pour partir en voyage. Mais ils ont élargi leur gamme. Je crois qu'il y a le Ricker, qui est vraiment l'entrée de gamme pour essayer de tirer vers le bas aussi des prix d'appel. Et donc, ils ont élargi une gamme assez considérable. Alors là, en l'occurrence, donc on a dit moteur 3 cylindres, embrayage automatique, palette pour monter, palette gauche au Komodo pour monter les vitesses et rétrogradage, soit de façon électronique.
Oui, c'est Bombardier qui fabrique aussi énormément de scooters des neiges et ça reprend les mêmes technologies, les mêmes façons de conduire.
Tout à fait. Alors tu me disais que tu avais l'expérience de la motoneige.
Oui, justement. Le
Can-Am, tu n'as jamais eu l'occasion de le piloter ?
Non. Bon, mais je vous dis, j'ai une copine qui l'en fait. Elle arrive, c'est la nana d'un pote Roquette. Et Rassemblement Roquette, elle nous suit sans trop de problèmes, mais elle se démolit les épaules à chaque fin de journée.
Ok. Voilà la miche, la Gaspésie, Québec, à découvrir donc dans les pages tourisme de Motomag de mai.
Bah, écoute, je vais aller voir les prix d'avion, un Roissy ou un Bruxelles, peut-être Mirabel, je crois que c'est ça, c'est Mirabel l'aéroport, à Montréal.
Montréal.
Oui, je crois que c'est ça.
Je demanderai à mon fiston qui est habitué, qu'il prend comme il prend le bus.
On va aller voir sur internet.
Absolument.
Allez, musique et on se retrouve juste après. Ouais.
Yeah.
Bon, Christophe, dans le sommaire du motobike de mai, on parle de boîtes robotisées et ça, c'est un sujet qui va faire plaisir à Jean-Yves.
Oui, alors on en parlait à l'instant là avec le Can-Am, hein, effectivement. Voilà, qui fonctionne avec une boîte automatique. Mais dans les boîtes automatiques, il y a quand même des modèles bien différents. Mm-hmm. Alors, la pionnière, c'est quand même la DCT de oui. chez Honda.
Inutilement compliqué, à mon avis. Mais bon.
Qui s'est quand même largement amélioré et aujourd'hui qui a atteint un niveau de satisfaction tant et si oui, bien que oui. pratiquement il y a même des modèles, je pense, qui ne se font plus qu'en DCT.
Oui, mais quelle est la finalité, ça ? Quel est l'intérêt de complexifier la mécanique pour un geste simplement où tu appuies sur un levier d'embrayage ?
Tu appuies de levier d'embrayage, tu appuies de sélecteur. Et tu,
bah, oui, mais alors
c'est des mouvements que tu n'as plus à t'occuper quand tu roules.
Bah, non, mais, de toute façon, tu t'occupes toujours de l'accélérateur, tu t'occupes toujours de passer les vitesses, enfin, pas passer les vitesses si tu as des palettes, si, mais je veux dire que tu mets une complexité mécanique folle pour une fonction qui est simplement de pouvoir faire patiner son embrayage. Moi, j'imagine mal une moto où je ne peux pas faire patiner mon embrayage. Parce que je m'en sers tout le temps. Dans tous les virages secs, un peu serrés, un peu penchés, je fais patiner l'embrayage parce que ça améliore mon adhérence. Et je maîtrise mon adhérence. Confier ça à une boîte automatique, pour moi, c'est je prends une Tesla et puis je me laisse conduire.
Oui, alors c'est dans les techniques, enfin c'est bien un avis d'Axel hein, par rapport à l'usage aussi des machines. Là, en l'occurrence, par exemple, la BMW, on parle de boîte robotisée. Oui. Et donc, pour en avoir une il y a une vingtaine d'années, effectivement, c'est juste un automatisme à minima. Ça apporte. J'ai pas eu l'occasion d'essayer la DCT de chez Honda. Mais quand on lit toutes les observations des utilisateurs, tout le monde se loue de ça. Par contre, la BMW, on critique en fait cette boîte comme étant un peu ancienne, quoi, et pas moderne au sens où on l'entend. Alors, est-ce qu'un jour ça évoluera ? Yamaha a sorti une boîte qui, elle aussi, fait l'objet de pas mal de louanges. Donc, ça sera peut-être intéressant un jour de faire venir témoigner des utilisateurs pour partager...
C'est certain que si tu es un peu handicapé, c'est un bien, parce que ça te permet de continuer à faire de la bécane, même handicapé. Sinon, je vois pas l'intérêt, parce que l'entretien coûte beaucoup plus cher, la fabrication coûte beaucoup plus cher, et une complexité mécanique de plus. Mais bon, après, ça, c'est mon point de vue.
On en a eu un, Christophe. Hein, on a eu Philippe Mention, hein, le coordinateur de la Fédé 59, hein, qui a justement acheté la BM, la 1300, la 1600, je crois, avec une boîte robotisée.
La K16.
La K16, voilà.
La R1300,
oui,
maintenant.
Oui, voilà, oui. Il trouvait ça très efficace.
Oui, oui.
Et agréable.
Ah bah, il faut reconnaître. Moi je suis utilisateur de boîte auto en voiture. J'avoue que j'ai pas essayé en moto, mais le scooter. Ouais. Si, le scooter en est un élément, mais est-ce une moto ?
Oui, dans ces cas-là, l'embrayage centrifuge de la KTM. C'est un embrayage de mobilette, point barre.
Oui.
C'est un embrayage centrifuge.
Le gros titre, c'est quand même c'est projet d'avenir ou gadget, hein, marketing. En fait, il faut savoir si est-ce que vraiment on a besoin d'avoir une boîte robotisée.
Vu les inconvénients et le surcoût, je dis non.
Alors sur la Honda, ça coûte 1 200 €, de surplus.
Oui, à la fabrication, ouais. Mais à l'entretien. Quand tu fais une révision de ta bécane et que tu dois aller ouvrir ta boîte, ça te coûte combien en plus ? Combien d'heures d'atelier en plus ?
Oui, j'aurais dû demander à Cédric tout à l'heure de leur Goldwyn. Finalement, est-ce que les mototaxis, ils ont opté pour le DCT, comme ils font essentiellement de l'urbain
Ouais, il faudrait trouver des gens qui roulent beaucoup, et qui auraient un avis vraiment.
Une bonne idée d'émission, ouais. et puis revenir quand même sur la technologie, qui est quand même très différente suivant les marques et les options qui sont retenues.
Là, quand on voit le schéma de la DCT Honda, on s'arrache les cheveux. On se dit, mais c'est un délire d'ingénieur. Et Dieu sait s'ils peuvent délirer profond.
Oui, un délire, mais alors, la première, elle est sortie il y a quand même 14 ans. Hein. Oui, depuis,
je présume que là, le schéma, c'est les dernières versions.
Il faut trouver un possesseur de ces motos. Voilà. Et on l'invite à la radio et qui va nous donner un peu son avis.
Ah bah j'ai des stagiaires à la FDM qui sont très contents de leur DTC. Mais bon, c'est tout. Alors, à partir du moment où tu n'as pas connu les plaisirs du sexe, tu ne peux pas imaginer que, c'est un robot qui fait l'amour à ta place.
On n'a pas connu les plaisirs de la boîte auto robotisée, donc pour l'instant, on ne peut pas en parler.
On y reviendra. Alors, dans les bons plans, puisque c'était quand même le sujet de la séquence, j'ai relevé donc l'ajustement des tarifs. Vous savez, ça fait deux mois que je vous en parle. Des marques qui sont un peu devant la concurrence internationale et particulièrement venues de Chine au sujet de leur tarification sont en train de revoir un peu leurs tarifs de gamme. Alors, ça a commencé par Harley, qui est avec ses véhicules électriques. Ça a suivi avec Suzuki. Et là, vous avez Honda donc, qui annonce une baisse de 500 à 700 euros sur certains modèles emblématiques de sa marque. Toute la gamme 500, notamment, la CB500, la CBR500 et la NX500. Donc 500 à 700 euros de remise sur la tarification. Vous avez, alors là c'est encore plus spectaculaire, les Kawasaki hybrides. C'est d'ailleurs étonnant. Moi je me souviens être allé au salon de Bruxelles, Piaggio avait sorti un MP3 hybride. Bon, il y a longtemps, ça doit faire plus de 10-12 ans. Eh bien, Kawasaki a sorti l'année dernière, il y a deux ans, une Kawasaki donc hybride qui n'a pas trouvé son public puisqu'il s'en est vendu l'année dernière 54 Z7 et 41 Ninja 7 hybride.
En France,
oui, c'est-à-dire Peanuts. Et donc là, ils ont revu leur copie et surtout, ils ont ajusté leurs tarifs. Alors tenez-vous bien, les machines qui étaient tarifées à 13 000 euros il y a deux ans, aujourd'hui, sont à 8 000 euros. Ça fait plaisir pour ceux qui l'ont acheté à 13 000 il y a deux ans.
Bon, si tu veux la rendre d'occasion, tu ne peux pas la rendre plus chère qu'un modèle neuf. Hein,
et Harley nous avait fait exactement...
Si, Harley, c'est ce qu'ils font.
Avec la LifeWear. Bien, donc j'ai ensuite intitulé rubrique utile ou futile. J'ai trouvé un antivol qui, quand vous le coupez, vous dégage une odeur de putréfaction à vous écœurer de continuer à couper l'antivol.
Oh bah les mecs, ils vont mettre un masque à gaz
quand tu pars voler une moto, tu ne penses pas à prendre un masque à gaz.
Il faut commencer à venir avec la tronçonneuse, le masque à gaz. Il passe à la suivante.
C'est plus simple.
Encore qu'ils ne sont pas prévenus. Donc, antivol, 260 euros quand même, l'antivol. Bon. Est-ce que finalement, dans ce prix-là, il veut pas un tracker pour repérer, parce que vous avez les AirTags qui vous permettent de repérer la moto.
Il faut l'antivol plus le traceur.
Oui. Les prix ont quand même considérablement baissé et aujourd'hui sont relativement accessibles. Alors, qu'est-ce que j'ai encore en magasin? Ah oui, page 36. Là, c'est un portrait. Et j'en parle parce que c'est quand même, depuis quelques mois, ça manquait un peu des portraits d'hommes, n'est-ce pas, et de femmes aussi. Mais là, en l'occurrence, il s'agit d'un horloger joaillier et motard. Donc, monsieur a effectivement une bijouterie et surtout produit des montres. Tiens, j'en connais qui font de la montre aussi. Venez à notre rencontre sur les stands. Et donc, motard et maître du temps, Florent Tremoloza, qui est installé à Biarritz, alors c'est pas la porte à côté, et qui vous donne la possibilité d'acquérir donc des montres. Alors, c'est pas donné, c'est le prix finalement de la moto dont je venais de parler, 8000 euros. Mais vous rentrez dans la bijouterie, finalement, vous avez l'impression de rentrer dans un magasin de moto. Donc, de l'orfèvre livrerie. Finalement, on est toujours dans la mécanique, hein, et vous pourrez découvrir le portrait de Florent, page 36 de Motomag de mai. Et enfin, pour terminer, et là, c'est vous mettrez un peu d'argent de côté. Si
vous commencez à économiser.
Oui, je pense qu'en même en un an, vous n'y arriverez pas. En 2027, Ducati sort la Superleggera V4 Centenario, une quasi-moto GP au tarif de 150 000 euros.
Pas cher, mon frère.
Il n'y en aura pas pour tout le monde. 500 exemplaires, et ce seront pour les clients Ducati. Hein, donc déjà, il faut être un peu dans les petites fiches de Ducati. À mon avis, elles sont presque prévendues. Alors, je sais plus, de 247 chevaux, je crois, pour 160 kilos. Donc vous voyez, le rapport poids-puissance, un truc de ouf. Alors vous avez évidemment en photo à l'appui, à découvrir, page 47 donc, de Moto Magazine, le numéro 430 de mai.
Merci Christophe pour ce sommaire du Motomag. Voilà, on passe à un morceau de musique et après, pour terminer cette émission, on va terminer avec l'installation d'un boîtier, hein, avec précision du boîtier E85 avec Jean-Yves.
That bother me feels like a covenant or a minute.
Voilà, Jean-Yves, on revient sur... parce que c'est une demande aussi de la Fédération française des motards en colère.
Effectivement.
Qu'on puisse rouler, nous, les motards, avec ce fameux boîtier
E80. Il n'y a pas de raison.
Et ça fait plusieurs années qu'il y a fait des demandes à ce que les motos
soient... Les automobilistes y aient droit et pas
oui,
nous.
Voilà.
Et donc, pour ça, je vais faire un petit rappel justement de mécanique, parce que finalement, il y a très peu de gens qui savent comment fonctionne leur moto. Donc, la plupart des motos maintenant, c'est, sauf les vieilles à carbu, c'est des injections indirectes. C'est-à-dire qu'ils vaporisent l'essence dans le conduit d'admission, avant la soupape d'admission. Et donc, il y a un calculateur qui calcule, en fonction de la richesse mesurée par la sonde lambda à l'échappement, qui mesure la quantité d'essence à injecter dans chaque cylindre. Et donc, il calcule une durée d'injection qui est fonction, effectivement, de la marque de l'injecteur, de la pression, de la pompe d'essence et autres. Donc, c'est un système assez complexe, mais qui tourne en boucle fermée, c'est-à-dire que les données de la sonde lambda, a posteriori, modifient le calcul de l'écu, enfin du calculateur, pour injecter la bonne quantité d'essence dans chaque cylindre. Alors, que fait un boîtier E85 dans ce cas-là ? Eh bien, simplement, il vole le signal envoyé sur les injecteurs d'origine. Et donc, ce signal, au lieu d'aller aux injecteurs, il va dans un boîtier qui, lui, corrige, en fonction de diverses données, corrige ce temps d'injection. En général, c'est pour l'augmenter, parce que justement... Alors, il est à noter aussi, ce qui est intéressant, c'est que l'intérêt de l'éthanol, c'est que la combustion est beaucoup plus froide, donc le moteur souffre moins, parce que la vaporisation de l'éthanol demande plus de calories que l'essence. L'essence se vaporise beaucoup plus facilement que l'éthanol, donc... Quand vous vaporisez de l'éthanol, vous refroidissez mieux votre moteur. Et ça, c'est un truc assez peu connu. Donc, que fait le boîtier éthanol avec ce signal ? Mettons, par exemple, que le calculateur a dit qu'il faudrait ouvrir l'injecteur 125 millisecondes. Le calculateur... Alors, les bons kits... Alors, je parle des bons kits, c'est-à-dire e-flex fuel. Ils mesurent la quantité d'alcool qu'il y a dans le carburant. Et donc, ils en déduisent, en fonction de table, la durée d'injection à ajuster pour remplir la même quantité de puissance que l'on veut. Et donc, c'est toujours pareil. Le signal donc, des injecteurs est envoyé dans ce boîtier. Le boîtier allonge le temps d'injection. Et donc, les sorties du boîtier sont branchées sur les injecteurs d'origine.
C'est pour ça qu'on dit que ça consomme plus. La consommation
ça consomme plus parce que effectivement,
ça consomme plus un litre.
J'ai considéré que c'était plutôt dans les 10 à 15, 18%. Donc, mais de toute façon, vu la différence, différentiel de prix, c'est toujours très très intéressant de rouler à l'éthanol. Alors, les inconvénients, parce qu'il y a beaucoup de fausses rumeurs qui roulent là-dessus, c'est vrai que l'alcool, c'est un composé chimique très hydroscopique, c'est-à-dire qu'il absorbe l'humidité de l'air. Donc, s'il absorbe l'humidité, vous avez de l'eau dans votre carburant, et donc, il y a certains joints qui n'aiment pas, il y a certains réservoirs métalliques qui peuvent rouiller s'ils n'ont pas été traités. Et donc, moi, ce que je recommandais, c'est que sur les kits 85, vous mettez un peu d'huile. On en revient à l'époque des vieux de temps. Vous mettez 20 ou 30 millilitres d'huile de temps dans votre carburant. Et parce que l'alcool est quand même un peu plus sec que l'essence. Alors, donc le seul kit que je recommande, je ne crois pas qu'il soit encore homologué, parce que il s'appelle e-flex fuel, donc E-F-L-E-X fuel, F-U-E-L .com, et vous pouvez aller voir ce site. C'est un fabricant finlandais, donc les fake news à propos de justement les difficultés de démarrage en hiver et autres, En Finlande, on ne peut pas dire que ce soit un climat très, 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 très costaud, enfin très, très doux. Et il existe en deux versions, c'est le iFlex Plus, la version de base, et le iFlex Pro 2, qui lui est un peu plus orienté dans l'augmentation des performances. Moi, je me suis intéressé qu'à l'iFlex Plus. Il y a bonne nouvelle, dans la législation, il faut que ce soit un installateur agréé qui vous installe ce kit. Et justement, autour de Lille, il y en a un à Power System, qui, alors si vous voulez les contacter, c'est contact@powersystem.fr, ou un autre à Saint-Guin-en-Mélantois, c'est près d'ici, qui c'est, pour les contacter, c'est info.lille-shift-tech. Alors, Lille, comme la ville, shiftech.fr, qui, eux, font l'installation et sont installateurs agréés. Donc, si vous ne voulez pas l'installer vous-même, ce qui est pourtant à la portée de n'importe qui, vous pouvez le faire installer par ces deux firmes-là. Alors, le prix, maintenant, c'est 800 € pour l'installation par un installateur agréé, alors que le kit, c'est de l'ordre de 450 à 500 euros si vous l'achetez directement en Finlande. Alors, on a parlé du bilan environnemental qui est quand même intéressant parce que ça a 50% de...
Oui, parce qu'à l'origine, le carburant il a été fait pour ça,
ouais.
pour justement baisser la...
Baisser la pollution, ouais, et les particules fines.
C'est ça.
Comme disait tout à l'heure le Cédric, là, c'est les particules fines sont abaissées de près de 90% et les gaz à effet de serre de près de 50%. Donc, si vous avez une vieille voiture qui fonctionne à l'injection indirecte, si vous mettez un kit 85, elle passera beaucoup plus facilement le contrôle technique parce que...
Alors, pour la moto, qu'est-ce qui nous empêche de monter un boîtier ?
Rien ne t'empêche actuellement, c'est uniquement que ce n'est pas prévu par la loi. Donc, tout ce n'est pas prévu par la loi, en France, est interdit.
L'homologation, Cédric, oui.
Si tu montes un boîtier, alors...
Le problème, c'est que je ne suis pas sûr que le iFlex Fuel soit parmi les boîtiers homologués, ce qui est une connerie complète, parce que, justement, comme il mesure la quantité d'alcool dans le carburant, vous pouvez rouler avec n'importe quelle proportion d'alcool et super.
C'est ce qu'on disait avec Cédric, dans un pays, parce que le 85 n'est pas répandu en Europe. Et si tu peux remettre du 95 ou du 98.
Donc, on me dit souvent l'argument, en cas d'accident, si l'expert il s'en aperçoit, d'abord l'expert il ne va pas démonter votre moto pour voir s'il y a un boîtier clanqué quelque part. Ensuite, s'il ouvre le réservoir, vous pouvez avoir vidangé votre E85 et avoir mis de l'essence, et donc ça sentira l'essence tout à fait normalement. Donc, c'est pas. Alors là, c'est toujours pareil, c'est comme le side, on est en limite de la loi. Si votre remorque fait 80 kg, théoriquement, vous êtes passible d'interdiction. Donc, si elle fait 79, c'est toujours pareil.
Oui, il y a une question, alors peut-être que ça a été évoqué par la Miche tout à l'heure, concernant l'usage sans boîtier d'un mixte éthanol essence traditionnelle.
Alors là, justement, il faut rentrer un peu plus, mais dans le calculateur, il y a des coefficients qui sont ajustables, qui permettent à long terme faire des corrections, d'augmenter le temps d'injection s'il le faut. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas ouvrir constamment vos injecteurs. Il ne faut les ouvrir qu'une durée déterminée pendant le temps d'admission. Mmh. Et donc, si vos injecteurs sont un peu limités en débit, ces coefficients-là dans le calculateur, la fourchette n'est pas assez grande pour faire l'adaptation. Mais c'est vrai que la plupart des motos modernes à injection supportent facilement 20 à 30% de 85.
Tu peux faire un mixte E85 et E95.
Sans boîtier. Oui,
sans boîtier.
Sur les forums Prius Toyota, alors, on n'est pas dans les motos là en l'occurrence, mais il y a quand même des utilisateurs de Prius qui font ce mixte.
Il y a même des... Bah, par exemple, il y a une chaîne YouTube, c'est l'ingénieur Rhodium, qui dit que certains calculateurs permettent des adaptations de ces fourchettes d'injection beaucoup plus larges que d'autres. Mmh. Et donc, qui peuvent même rouler quasiment à l'E85 normal.
D'accord.
Alors, c'est toujours pareil. Il faut mettre quand même, comme l'alcool est plus sec que l'essence, mettre de temps en temps un peu d'huile de thym dans le carburant, ça permet de faire le... Bon, alors là,
Le seul problème, donc, c'est, je comprends bien, c'est le temps d'ouverture de l'injection.
Des injections.
Hein. Voilà, on en met un peu plus parce que...
Le pouvoir calorifique de l'éthanol est plus faible que de l'essence.
Voilà. Très bien, Jean-Yves. Bah, écoute...
moralité, je ne comprends pas pourquoi les motards n'ont pas massivement adopté ces kits.
Ok, c'est à suivre hein, de toute façon,
Oui,
parce qu'on suppose qu'avec le prix des carburants...
Et puis peut-être qu'on va finir par être entendu et puis que ça va être permis sur les motos.
C'est inéluctable, je pense que l'avenir est en marche.
Voilà, très bien, merci Christophe. Alors,
mais
merci
en marche lente.
Pour ce sommaire du mois de mai. Hein.
Absolument.
Voilà. Et puis merci pour toutes ces informations hein, sur l'E85 et sur ces boîtiers. Hein. Donc vous avez entendu, on peut monter un boîtier, il n'y a rien qui nous empêche de monter un boîtier E85. Hein. C'est simplement en cas d'accident et d'une visite de l'expert. Voilà. Jean-Yves, une bonne opération, hein, parce qu'on sait que. Enfin, non, normalement, tu as été opéré.
Oui,
normalement, tu as survécu. Voilà. Et on se retrouve. Nous, on se retrouve le dernier en mois de juin. Tiens, ce sera la dernière émission du mois de juin, et ce sera le dimanche 7 juin.
Salut.
Voilà. On remercie aussi notre technicien Laurent.
Merci,
passez
Laurent.
Un bon dimanche et à bientôt. Voilà.
Soyez prudents. Prenez soin de vous.